La Bible dit ceci, Daniel chapitre 1er. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach et Azaria, celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel : « Je crains mon seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge ? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés et il leur donnait des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans son royaume, dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc ça, c'est la première partie. Deuxième partie, nous lisons au chapitre 2. La deuxième année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent les songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un temps d'immondice. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. » Ils répondirent pour la seconde fois, « Que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit, « Je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. » Les Chaldéens répondirent au roi, « Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux, dont la demeure n'est pas parmi les hommes. » Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée, les sages allaient être mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arioch, chef des gardes du roi qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arioch, « Commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère ?» Arioch exposa la chose à Daniel. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. » Amen. Voilà, je m'arrête là. Donc la première partie, c'est la captivité, donc l'emprisonnement de Daniel et de ses compagnons. Première chose, Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il fait, le roi de Babylone? Il vient, il fait une guerre au pays de Daniel et il gagne la guerre. Vous savez, c'est déjà une honte d'être dans un pays qui perd la guerre. Ça fait déjà mal. Donc Nebuchadnezzar vient, il fait déjà du mal au cœur de Daniel et ses compagnons en gagnant la guerre. Deuxième souffrance de Daniel, Daniel et ses compagnons sont enlevés pour être amenés captifs à Babylone. Donc c'est la deuxième souffrance. Maintenant, ça c'était physique, nous revenons maintenant à des choses spirituelles. On donne à Daniel et à ses compagnons des noms qui ne sont pas de leur pays. Et notamment le nom de Daniel qu'on lui avait donné, Belshazzar. Bel, c'est le nom du dieu païen que Daniel n'aimait pas du tout et que Dieu, l'Éternel, n'aimait pas. Donc Belshazzar, ça veut dire prince de Bel, faveur du dieu Bel. Et Dieu était contre les autres dieux qui ne sont pas des dieux en réalité, c'est des démons. Alors, on donne à Daniel ce nom-là. Donc c'est une grande souffrance pour lui, et humaine et spirituelle, de se voir attribuer un nom d'un faux dieu. Et Daniel souffre encore. Quatrième problème, on propose de les encadrer et de les faire manger, mais en leur donnant la nourriture du roi, de la nourriture qui était souillée en quelque sorte par la forme dont elle était préparée. Et Daniel, là, une souffrance se rajoute, il préfère avec ses amis ne pas manger cette nourriture-là qui était bonne pour le corps, avec les yeux. Donc physiquement, c'était de la bonne nourriture, mais Daniel préfère se sacrifier, ne pas manger cela. C'est une souffrance de plus. Mais là, nous allons voir aussi que cette souffrance-là, elle est choisie de lui-même. Mais c'est quand même une souffrance de ne pas manger tous les bons mets qu'on donne à la table du roi et de préférer manger du pain et des légumes. Mais parce qu'il était conscient qu'en mangeant les mets du roi, il se souillait. Il n'a pas préféré, il n'a pas voulu se souiller, il a préféré rester pur, mais manger des choses simples, notamment du pain, des légumes et de l'eau. Voilà une souffrance de plus, mais c'est une souffrance choisie. Donc on peut appeler ça un sacrifice. Mais Daniel fait encore ce sacrifice. Pourquoi il fait ce sacrifice? Il fait ce sacrifice pour son Dieu. Lorsque nous avons lu ce texte, on a dit un détail sur Daniel. On a dit qu'il, lui et ses compagnons étaient comment? Ils étaient physiquement bien portants et beaux de figure. Donc c'était de jeunes gens. Donc c'est déjà un sacrifice de plus que des jeunes gens. On connaît, on sait que la jeunesse a souvent envie de s'amuser, de se laisser aller. Mais ces jeunes gens préfèrent rester purs devant Dieu. Alors qu'ils ont tout un champ qui leur est donné pour faire de l'impureté, mais ils préfèrent rester purs. C'est une souffrance de plus. C'est des jeunes gens qui prennent des mesures qu'on est en train de citer. Aujourd'hui, même au milieu des chrétiens, pour trouver des jeunes gens qui puissent prendre les mesures que Daniel est en train de prendre là et ses amis, c'est un miracle. C'est un miracle. Et ces jeunes gens, d'eux-mêmes, ce n'est pas un pasteur qui les pousse à dire « Ne mangez pas ces choses-là. » D'eux-mêmes, ils disent non. Ce n'est pas de notre peuple, ce n'est pas pour notre Dieu, ce n'est pas en faveur de notre Dieu, on ne mange pas. Une souffrance de plus, des jeunes gens qui prennent des mesures de restriction sur leur propre vie. Ce n'est pas courant cela. Et tout cela, ils le font pourquoi? Pour Dieu. Et maintenant, malgré le fait qu'ils pouvaient se dire « Mais Dieu nous a abandonnés. » Il a permis qu'on perde la guerre. Il a permis ceci, qu'on nous amène captifs. Il nous a abandonnés. On m'a arraché de ma maman. Il nous a abandonnés. Mais malgré tout, ils ont gardé la foi que Dieu était Dieu et qu'il était bon. Et ils ont d'eux-mêmes choisi encore de faire un sacrifice en évitant de manger la nourriture proposée, une nourriture extraordinaire physiquement par le roi. Et nous arrivons donc à la deuxième partie. Déjà dans la première partie, nous voyons que la conséquence de cela, c'était quoi? Daniel était en meilleure santé, lui et ses compagnons, par rapport aux autres. Première conséquence, physiquement, ça s'est ressenti. Et moi, je peux vous dire, c'est vrai, hein, peut-être c'est l'habitude, je ne sais pas, je ne crois pas que c'est l'habitude. Mais beaucoup de gens que j'ai connus avant le Seigneur, quand ils ont reçu le Seigneur, ils sont devenus plus beaux, plus présentables physiquement. Donc, il y a déjà un effet physique sur la personne. Donc il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont le visage fermé, les traits tirés, donc prêts à bondir comme des fauves. Mais quand tu reçois le Seigneur, il y a la paix qui vient. C'est vrai que d'un côté, tu t'abstiens des choses qui peuvent paraître bonnes, agréables pour les autres, agréables pour la chair aussi. Tu t'en abstiens pour ton bien. Tu t'en abstiens par obéissance à Dieu. Mais l'échange est déjà là. Le résultat est déjà là. C'est que ton corps déjà respire mieux. Physiquement, tu es bien portant. Donc, la couleur déjà change. Donc, les gens qui connaissent les gens qui ont beaucoup fumé, dès qu'ils arrêtent, après 6 mois, on voit que le visage change. Bon, imaginez maintenant que la pollution du péché est plus grave que la pollution de la cigarette. Donc, dès que tu arrêtes le péché, effectivement, ton corps va s'en ressentir que mieux. Et donc, Daniel, première conséquence, physiquement, il est bien, bien portant, mieux portant que ceux qui mangeaient les meilleurs mets. Donc, les mets les plus délicats. Deuxième conséquence, on lui donne, avec ses compagnons, une intelligence, une sagesse impressionnante, 10 fois supérieure aux autres. Mais est-ce que cela n'est-il pas beau d'avoir une telle sagesse, une telle intelligence, et ils reçoivent cela. Donc on voit déjà que c'est des souffrances qu'ils ont connues, Mais ils ont profité au-delà de ce qu'on pouvait profiter. Ils ont été bénis au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Et ils sont admis au service du roi. Maintenant, bien-aimés, admis au service du roi, il y a encore un problème de plus. Et on décide de les tuer tous. Sincèrement, ça fait trop. Donc déjà, amené captif. Déjà, déraciné de ta terre. On te donne de mauvais noms. Tu es obligé de faire des sacrifices, ne pas manger comme tout le monde. Même si après, tu as la sagesse, tu as la force, tu as la beauté. Mais, tu es obligé de faire des sacrifices. Tu es jeune, tu es obligé de faire tous ces sacrifices-là. Et là encore, il y a un autre problème qui surgit. Je crois que là, on pouvait se poser la question, dire, mais Dieu ne veut-il pas nous lâcher? Dieu ne veut-il pas, une fois pour toutes, nous laisser en paix? Déjà, il a permis qu'on soit envoyé captif. Déjà, il a permis ça. Déjà, on est jeune, on fait déjà des sacrifices. Maintenant, on nous menace encore de mort. Alors qu'on n'a rien fait, parce que dans tous les cas, à chaque fois, ils n'ont rien fait. Hein. Eux-mêmes n'ont rien fait. S'ils ont été amenés captifs, c'est parce que dans leur pays, le péché y était. Mais ce n'est pas lui, Daniel, qui a péché. Ce n'est pas ses compagnons qui ont péché. Eux, ils étaient des jeunes purs. Mais les choses leur tombent dessus. Et là encore, une autre affaire leur tombe dessus et on va les tuer. Alors, ils se sont dit, mais... Non, eux, ils ne se sont pas dit cela, mais comment réagirait quelqu'un de normal? Mais là, Seigneur, c'est beaucoup. Mais bien-aimé, mon thème aujourd'hui, c'est va plus loin. Avec Dieu, il n'y a pas de limite. Dieu viendra secouer ta tranquillité, secouer ta stabilité pour t'amener plus loin. L'homme naturel a tendance à chercher un terrain de repos. C'est naturel. L'homme naturel a tendance à chercher un terrain où il aura des repères et ces repères-là vont être sa force. Il sait que le frigo se trouve à tel endroit, il sait que le travail c'est à tel endroit, il connaît ses repères comme il faut, tout est programmé, il a planifié. Il a tendance à chercher un terrain de repos. Et Dieu veut nous amener plus loin. Parce que l'homme, dans sa condition humaine actuelle, n'est pas capable de concentrer toute la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui donne par dose. Et en lui donnant par dose, il a besoin de recevoir encore une nouvelle dose. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous parle souvent de renouveler, revêter encore l'homme nouveau, revêter, renouveler. Donc il faut que ça soit renouvelé. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis. Donc c'est quelque chose qui doit être renouvelé parce que l'homme ne peut pas une fois pour toutes en lui recevoir tout ce que Dieu a prévu pour lui. Donc il a besoin d'y être préparé, d'être travaillé pour recevoir par dose jusqu'à sa mort. Et pour recevoir la gloire de Dieu, il a besoin d'être secoué, sorti, il faut qu'on le sorte de ses faux dieux. Et même s'il n'en a pas en face comme ça, sous forme de statue, ses repères, sa stabilité devient son propre Dieu. Donc il sait qu'il a un tel niveau de compte bancaire, les choses sont arrangées, il s'est acheté déjà une maison. Alors tout est arrangé comme pour le sécuriser. Et c'est cette sécurité-là qui finit par devenir sa propre force. Il y en a qui sont même pasteurs, ils savent que bon, au pire des cas, chaque dimanche, on sera 300. Au pire des cas, on sera 600. Donc, il a une stabilité bien mesurée et tout est fait pour le tranquilliser. Et Dieu considère cette stabilité-là comme un faux Dieu qui finira par te tuer, qui finira par te tromper, qui finira par te rendre fragile vis-à-vis du diable. Parce que le diable peut combattre tous les faux dieux. Parce que c'est lui-même le prince des faux dieux. Mais le diable ne peut pas combattre l'Éternel. Et Dieu cherchera à ce que tu t'appuies sur lui, l'Éternel. C'est lui le maître de Satan, le plus fort. Donc lui, il commande au diable plus que toi tu commandes à tes sandales. parce qu'il est l'Éternel, le Tout-Puissant. Et le Seigneur cherchera à te sortir à chaque fois des faux dieux. Ces faux dieux qui est la stabilité, les repères bien cadrés. Et c'est très subtil. C'est très, très subtil. Ces repères-là viennent très vite, très vite. Et le grand piège, c'est surtout quoi? Quand tout marche, tu avances. Promotion au travail, un nouvel enfant. Donc, quand les choses avancent comme ça, on tombe dans une sorte de continuité. On se dit, bon, il suffit que j'aille faire ceci, les choses vont avancer. Donc, toutes ces choses-là, je prie le matin à telle heure, je fais telle chose à telle heure. Donc, il y a un ensemble de choses que tu fais qui, sans que tu t'en rendes compte, ou parfois tu vas t'en rendre compte à un moment, est devenu ton Dieu, est devenu ton repère, tes repères, est devenu ta force. Et en devenant ainsi ta force, ça te met en danger. Parce que tu n'as plus comme appui l'Éternel, le rocher des siècles, le rocher des âges, l'ancien des jours, mais tu as comme appui l'homme. Or, la Bible dit dans Jérémie 17, « Maudit quiconque se confie en l'homme. » Et donc, quand on dit « se confie », ça ne veut pas dire avoir confiance, parce que Dieu veut qu'on ait confiance en certains humains, mais « qui se confie », ça veut dire « qui se repose ». Maudit quiconque se repose sur son organisation. Maudit quiconque qui se repose en l'homme, puisque l'homme n'est pas stable, n'est pas éternel, il a des fluctuations, l'homme, des variations. Mais Dieu n'a pas de variations, il est invariable. C'est ça la différence. Et Dieu va tout faire pour nous libérer de ces faux dieux-là, qui sont tous ces repères-là, qui sont des éléments qui vont nous amener à notre mort. Vous vous souvenez, quand Jésus demande à l'aveugle qu'il appelle, l'aveugle crie, « Jésus, sauve-moi !» Jésus s'approche près de l'aveugle. Jésus lui dit, « Mais que veux-tu que je fasse ?» Mais les gens disent, même nous qui avons lu, on se dit, « Mais oui, mais Jésus, mais c'est clair. Si c'est un aveugle qui t'appelle, ben, c'est clair qu'il veut voir. Pourquoi cette question-là ? Pourquoi cette question ? Parce que cet homme avait sa force, hein, même s'il était aveugle. Il avait sa force. Et vous savez, sa force, c'était quoi ? Le fait d'être aveugle. Donc, le fait d'être aveugle, c'était sa force. C'est ça qui lui permettait de mendier. Parce que s'il n'était pas aveugle, il ne pouvait pas mendier. Donc, c'est parce qu'il était aveugle, c'est pourquoi les gens s'occupaient de lui. Les gens le prenaient pour le déposer à l'endroit où mendier. C'est pourquoi les gens, quand il avait besoin de quelque chose, il pouvait crier, quelqu'un pouvait venir l'aider. Puisqu'il était aveugle, il pouvait toute la journée rester assis, entendre les conversations, être dans la distraction, se réjouir, alors que les autres allaient travailler, allaient souffrir. Mais lui, il était là juste à mettre son panier et attendre que les pièces tombent. Donc, il avait sa force. Être aveugle, c'était sa force. C'est pourquoi Jésus lui demande, veux-tu sortir de cette routine-là, de cette force-là que tu as? Parce que je ne veux pas t'ouvrir les yeux pour que tu regrettes après. Mais oui, mais j'étais bien aveugle quand j'étais assis là. Or, la Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Donc, on ne donne pas des choses bonnes à des gens après qui vont fouler cela, qui vont regretter, qui vont s'énerver. Non. Donc, avant de te donner la chose, Dieu veut s'assurer que tu le veux réellement. Tu veux cette chose-là. Et donc, Jésus lui demande, que veux-tu ? Parce qu'il était fort. Ses habitudes étaient sa force. Rester là toute la journée, attendre l'argent, tomber facilement, c'était sa force. Donc il fallait le sortir de cela. Mais c'était en même temps son piège aussi. Mais heureusement, lui n'est pas tombé dans ce piège. Il a préféré quand même voir vivre une nouvelle vie. Une vie où il va travailler. Une vie où les gens ne vont plus l'aider comme on l'aidait autrefois. Une vie où il devra tout reconstruire. Une maison, une famille. Recommencer toutes ces choses-là. Commencer plutôt toutes ces choses-là. C'était une vie de défi, hein, une vie quand même de problèmes. Mais il a préféré la liberté avec des défis plutôt que l'esclavage, plutôt que la stabilité mortelle. C'est ça la réalité. Et Dieu sait que notre fausse stabilité, nos repères vont nous détruire parce qu'ils vont nous endormir. On va reposer. Vous savez, quand quelqu'un dort, c'est parce qu'il se sent à l'aise dans un endroit et il s'y repose. Et ça sera notre chute. Le diable viendra nous voir déjà endormis par notre stabilité, endormis par notre routine, endormis par nos repères, endormis par notre vie de tous les jours. Et il peut nous massacrer facilement. Et Dieu viendra toujours nous secouer, créer des événements. C'est pourquoi j'ai bien fait de lire le verset Daniel 2:21 qui dit « C'est lui qui change les temps et les circonstances ». Ça veut dire que Dieu peut décider que, en sortant de cette assemblée, tu rencontres un chien blanc, par exemple. Il peut décider que tu rencontres un cheval en sortant. Donc, il crée les temps et les circonstances pour nous réveiller et nous pousser à aller plus loin. Parce qu'il sait que notre salut repose dans la progression. Dans la vie spirituelle, rester sur place, c'est un recul. Dans la vie physique, quand tu restes sur place, tu ne recules pas. Mais dans la vie spirituelle, rester sur place, c'est un recul. Donc Dieu sait que notre salut, parce qu'il y a salut et salut, il y a le salut de la vie éternelle et il y a le salut de tous les jours où tu vis les promesses de Dieu, où tu vis la joie, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Et ce salut-là repose, et même le deuxième d'éternité peut être dérangé lorsque nous laissons prendre par la routine, la fausse stabilité qui procure la mort. Lorsque nous nous laissons prendre par le surplace, que qui que tu sois, le Seigneur va te secourir pour te pousser à progresser, à aller plus loin. Bien-aimé, il y a des gens qui font des sacrifices. Il y en a qui en font. Mais c'est étonnant, un jour ils vont se lever, Dieu lui dit, mais tu m'as abandonné. Mais la personne va dire, mais quand même, moi je fais ceci, je fais cela, plus que tout autre. Mais comment Dieu peut me dire, tu m'as abandonné? Dieu connaît. Lisez, on va lire Éphésiens, non plutôt Apocalypse 2, mais on parle de la lettre aux Éphésiens. Apocalypse 2, qu'est-ce qui est écrit? Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de sept chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Amen. Voilà cette église à laquelle Jésus dit, repens-toi, alors que c'est une église apparemment parfaite. Puisque on dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé, bien-aimé. C'est une sorte de choses positives. Tu ne t'es point lassé, tu es persévérant, tu as souffert à cause de mon nom. Où est le mal que cette église a fait? Rien du tout. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc tu t'es installé. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu t'es installé. Tu ne bouges plus. Tu es sur place. Tu fais les mêmes choses. C'est bien. Tu es persévérant. Tu défends mon nom. Mais tu fais les mêmes choses. Tu t'es installé. Tu as ton programme de combattre les faux apôtres. Tu as ton programme. Tu t'es installé. Eh bien, mais quand j'ai dit bouger, il ne s'agit pas de bouger physiquement, parce que certains risquent de croire qu'en allant à gauche, à droite, dans tel ou tel autre séminaire, lui n'est pas dans ce cadre. Oui, mais beaucoup se sont installés dans leur propre général. Donc, il est son propre général, c'est lui qui décide d'aller à gauche, à droite. C'est de l'installation. Même si tu bouges, c'est de l'installation. Tu as ton système de vie que toi-même tu gères. C'est de l'installation. Un vrai chrétien sera toujours bougé par le Seigneur. Il peut vivre un temps où il a l'impression que les choses sont stables. Après viendra un temps où il sentira que l'agitation vient. Et c'est salutaire. Parce que s'il n'y avait pas ça, tu vas t'endormir. Il faut que ça bouge. Il faut que tu sois agité. Et vous, lisons la Bible, bien aimé, les évangiles surtout. Combien de fois Jésus a agité ses disciples? Tempête dans la barque. Tempête. Et Jésus dort. Déjà la tempête, ça fait peur. En plus, le maître dort. Ça énerve davantage. Mais c'est quoi ça? Comment peut-il dormir alors qu'il pleut et ça bouge comme ça? Ça, c'est fait pour bouger les gens. Mais vous croyez en quoi? Bien aimé. Et c'était tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça. À un moment, ils marchent sur les eaux. Ils disent, un fantôme. Il dit, non, je ne suis pas un fantôme. C'est moi, Jésus, je marche sur les eaux. Mais ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a encore? D'ailleurs, quand il a calmé, quand il a dit au vent, silence, tais-toi. Ils ont dit, mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent et la tempête? Mais on ne comprend pas. Donc, il fallait à chaque fois les amener plus loin. Ils croyaient en Jésus, mais il fallait qu'ils croient encore plus fort. Il fallait qu'ils croient à une dimension encore plus grande. Et c'est pourquoi Dieu va te secouer. Dieu va me secouer parce qu'il ne veut pas qu'on reste sur place. Parce que sur place, c'est notre mort. Je vous l'ai dit la vérité. Pour moi, le premier, sur place, c'est la mort. Où tout est programmé, tout est calculé. Même si on crée des événements, séminaires, tout ça. Tant que Dieu ne nous bouscule pas de lui-même, on mourra. On mourra. On peut même continuer à recevoir des révélations, des prédications, mais on est dans la mort. Parce que ce n'est plus, on n'a plus le même amour pour Dieu. On n'est plus comme un enfant pour Dieu. Et vous allez remarquer, quand on commence à mourir, souvent, c'est là qu'on devient irascible. On s'énerve facilement. Quand on commence à s'énerver facilement, c'est le témoignage qu'on n'est plus en bonne relation avec Dieu. Il y a un problème. La colère vient souvent. Moindre problème, tu t'agites. La peur commence à venir souvent. Donc, tout le contraire du fruit de l'esprit, la paix, la joie, tout ça, dès qu'on commence à faiblir dans notre relation avec Dieu, ces choses-là commencent à remonter. Et on va même se rendre compte, parfois, les petits gestes, on ne les fait plus. C'est ceux qui étaient parfois amenés à s'agenouiller pour prier, ils ne vont plus s'agenouiller. Ils vont rester toujours assis ou bien endormis. Il y a des trucs comme ça qui montrent de l'orgueil, hein, qui commencent à se manifester parce qu'on est en train de s'éloigner de Dieu. Mais pourtant, on continue toujours à fonctionner. Et physiquement, visiblement, les gens ont l'impression qu'on est toujours le même. Mais Dieu sait qu'on est en train de mourir parce qu'on s'est installé. Et cette installation produit l'orgueil. Parce que quand on est sûr et que cette assurance ne vient pas de Dieu, forcément ça produit l'orgueil. La Bible dit, maudit quiconque se confie en l'homme. Donc quand notre repos, notre soutien, c'est l'homme et son organisation, même tout ce que Dieu a donné, quoi. Donc tu viens, tu regardes ce que Dieu t'a donné. Tu regardes la maison, tu regardes l'église, tu regardes les livres que tu as écrits, tu regardes tout ça, eh bien, ça devient ton soutien, c'est ta mort. C'est ta mort. Dès que ton repos, ton salut repose sur l'homme, ou même si c'est Dieu qui a donné, mais quand Dieu donne, après c'est à toi. Repose sur ce que Dieu a donné, et non sur Dieu lui-même, c'est la mort qui commence. Donc tout doit reposer sur Dieu. Et Dieu dit à Éphèse, vous êtes une mauvaise église finalement, parce que vous devez vous repentir. Oh, comment cette église qui est parfaite dans tous les points? Ben non, le vrai problème, c'est qu'il n'y avait plus la spontanéité avec Dieu. Il n'y avait plus une relation d'enfant où on se laisse entraîner par Dieu. Mais il y avait une relation de professionnel. On a à faire ceci, notre doctrine cela. Donc on défend la doctrine, on défend notre position. On va évangéliser comme prévu, à telle rue. Ça, c'est, on a déjà prévu ça dans notre programme. Donc on défend notre position. Mais Dieu ne nous entraîne plus. Et Dieu dit, vous devez vous repentir. C'est ça la vérité. Et pour résumer, je vais dire, Jésus, Dieu va secouer nos habitudes humaines et spirituelles. Il va les secouer parce que c'est notre mort que ces habitudes vont produire. Et si tu n'es pas secoué, si c'est toi qui décides quand est-ce que tu pries, tu décides quand est-ce que tu vas à l'église, tu décides ça veut dire que tu n'es pas secoué, c'est toi le chef. Tu n'es pas secoué, donc tu es pratiquement mort déjà. Peut-être que tu n'es pas mort, mais tu es pratiquement mort. Tu es près du précipice. Tu es près du précipice. Bien-aimé, il y a une semaine, j'ai reçu la conviction d'appeler deux personnes. Mais j'ai traîné mardi, mercredi, et puis le quatrième jour, une voix me dit, la vie chrétienne, c'est l'obéissance. J'ai dit, bon, pardon Seigneur, je vais appeler rapidement. C'est ça, bien-aimé. Donc, si c'est toi qui dois décider qui tu dois appeler, l'autre, mais je ne comprends pas sa position, je ne l'appelle pas. Ah, c'est toi le chef, tu es bien installé sur ton trône. Ne t'en fais pas, tu es dans la mort. Tu es dans la mort. Si c'est toi qui dois décider quand est-ce que tu vas sourire, ne t'en fais pas, tu es dans la mort. Si tu dois décider sur ton avenir, ne t'en fais pas, tu es installé sur ton trône. Tu es dans la mort, c'est Dieu qui doit décider sur toi. C'est ça le vrai amour avec Dieu. Nous continuons. Donc, il va déstabiliser nos habitudes humaines et spirituelles. Nous étions peut-être habitués à manger telle chose. Dieu va déstabiliser cela. Dieu va déstabiliser cela. Ne vous en faites pas. On n'aime pas tel animal. Dieu va déstabiliser ça. Donc, il va... Parce que quand on est bien dans nos repères, c'est là que l'orgueil grandit. Et Dieu va déstabiliser nos habitudes. Et tous ceux qui refusent cette déstabilisation-là portent sur eux la marque de l'orgueil. Non, moi je ne mange pas ces choses-là. Donc pendant 3 ans, tu es en France, tu ne mangeras pas toujours ce qui est de la France. Alors sors de la France alors, hein, bien-aimé. Sors de la France. Ça fait 4 ans, 10 ans que tu es en France. Tu ne veux pas manger de ce qui est français. Alors qu'est-ce que tu fais là? Et ces gens-là ont sur eux l'orgueil du pays d'origine. Ils ont sur eux l'orgueil de, admettons, de la race. Ils ont sur l'orgueil de leur tribu. Ils ont, parce qu'ils sont dans un état où ils doivent se soumettre à quelque chose. Ils refusent de se soumettre. Ils préfèrent continuer à manger pareil, à faire pareil. Tous, c'est des maîtres. Puisqu'ils sont installés dans leur maîtrise, ben Dieu les laisse, bien-aimés. Il faut accepter le changement d'habitude imposé par Dieu. C'est très important. Et il y en a pour essayer de ne pas changer. Ils disent, mais non, ce qu'ils font là, c'est culturel. Ce n'est pas biblique. Oh, mais toi, pourquoi Dieu t'a mis dans ces conditions-là avec eux? Il t'a mis avec eux pour que tu suives ce culturel-là que tu dis que ce n'est pas biblique. Là. Il veut que tu changes. C'est ça, bien-aimé. Ah, c'est les Juifs qui faisaient ça. Oh, mais pourquoi le salut vient des Juifs alors? Donc, réfléchis, bien-aimé. Donc, il faut se soumettre à Dieu, accepter le changement d'habitude humaine qui était notre repos, qui faisait partie de notre repos. Dieu ne veut pas de cela. Acceptons qu'on se réveille très tôt, alors que dans ton ancienne église, tu étais habitué à prier à 16 heures le dimanche, mais dans une autre, ça sera à 10 heures. Dans une autre, là où on était parti à Bordeaux, eh bien c'était, on avait une réunion d'hommes à 7 heures du matin. Alors donc, je sais que beaucoup ne viendraient pas, donc, puisqu'ils sont habitués ici, il y a assez qu'on vienne à 9 heures. Donc si on dit réunion d'hommes à 7 heures du matin, madame, quand même, le pasteur exagère. Mais ceux qui ne savent pas ailleurs, ça se pratique. Vous voyez, hein? Donc parce que tu n'as pas l'habitude de faire ça, tu vas dire, hein, ils exagèrent. Mais ailleurs, ils ont l'habitude de faire ça, c'est normal. C'est pour nous dire que c'est nous qui ne voulons pas nous soumettre au changement de Dieu. 7 heures, on était là, réunion d'hommes. Voilà, bien-aimés, la réalité. Dieu va déstabiliser nos habitudes. Oh, ils passent toute la journée à l'église. Mais c'est des malades. Mais si on dit, vous savez, les gens qui vont à Roland-Garros, c'est toute la journée, hein. Va à Roland-Garros toute la journée. Les gens qui cherchent à voir certains matchs de mondial, ils sont même pas dans le terrain. Ils dorment la nuit, ils sont là pour voir sur l'écran géant le match. Mais là, dehors, ils dorment. Mais parce qu'il n'a même pas eu le billet, hein, mais il va voir le match sur l'écran géant, mais autour du stade seulement. Et il préfère dormir là pour avoir la bonne place. Mais il passe toute la journée là-bas. Et alors, toi tu passes la journée où? Là où il y a Dieu, qui récompense les petits, les faibles, tu ne passerais pas la journée? Bien-aimé, quand on a commencé l'église, bien-aimé, à midi ici, ben c'était difficile. Hein? Midi, de mouvement, paf, les gens sortent. Je dis, mais non, c'est pas possible. Ce Dieu-là du midi, on va le casser au nom de Jésus-Christ. Et on a prêché. Après, à midi, ça s'est calmé maintenant. Les gens continuent à manger la parole. Alléluia. C'est ça la vérité. Dieu va secouer tout ça parce que notre mort se trouve là. C'est des faux dieux, ces habitudes-là. Et Dieu va secouer des habitudes spirituelles. Jésus était spécialiste de ça. Nous lisons une de ses attaques, Jean 6, 51. Jean 6, qu'est-ce qui est écrit? Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Amen. Alors Jésus leur dit, « Il faut me manger. » Maintenant, pour éviter toute confusion, on dit, pour éviter une interprétation spirituelle rapide, il dit, il faut manger ma chair et boire mon sang. Donc, celui qui ne le mange pas, il dit clairement, ma chair, c'est une vraie nourriture. Donc, il insiste vraiment pour amener les gens, dit, mais non, mais ce n'est pas possible. Et les gens disent, les Juifs disent, mais non, ce n'est pas possible. Ils nous demandent de le manger. Ça veut dire quoi? On va devenir des cannibales. Et puis, Jésus continue encore. Vos pères ont mangé la manne. Or, ils ont mangé physiquement la manne. Il dit, mais moi, si quelqu'un me mange, il ne mourra pas. Ils ont mangé la manne, ils sont morts. Moi, si tu me manges, tu ne mourras pas. Si tu bois mon sang, tu ne mourras pas. Alors là, même ses disciples ont dit, c'est trop dur. Et la Bible dit dans la suite, tous l'ont quitté. Tous l'ont quitté. Et il n'y a que 12 qui sont restés. Il leur a demandé, pourquoi vous restez? Il dit, parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Ils ont dit, on n'a pas compris ce que tu as dit. Mais ce qu'on sait, c'est que tu es le Fils de Dieu. C'est tout. On n'a pas compris. On n'a pas compris. Nos habitudes sont bousculées. Mais ce qu'on sait, que c'est bousculé par l'Éternel. Puisque c'est bousculé par Dieu, on obéit. Plus tard, on comprendra. Mais on commence par obéir. Le problème, c'est de savoir qui a bousculé mes habitudes. C'est qui? C'est qui veut le faire? Qui veut me travailler? Qui veut m'amener plus loin? Qui permet que mon fils tombe malade? Qui permet que mon mari souffre autant ou bien soit méchant envers moi? Qui permet? Puisque Dieu est tout puissant, il peut arrêter ça. C'est forcément Dieu. Puisqu'il est tout puissant. La Bible dit que c'est lui qui change le temps et les circonstances. S'il est capable de te faire rencontrer une mouche en hiver, à moins 4 degrés, mais donc il est capable de changer tous les gens autour de toi. Ah, s'il ne change pas encore, c'est toi qu'il vise. Il veut te bousculer pour t'amener plus loin, à sortir de ta stabilité, de ta richesse. Il veut te secouer. Mais tu te dis, mais oui, mais moi je prie déjà. Je lis beaucoup la parole. Je suis d'ailleurs diacre. Mais, bien aimé, l'apôtre Paul dit, je ne regarde pas au passé, je continue à courir. C'est devant. Peu importe, il était apôtre. Mais c'est, on n'est pas apôtre une fois pour toutes comme ça, et c'est fini, on ne progresse plus, non. La stabilisation, la stagnation dans le monde spirituel, c'est la mort. Dans la vie chrétienne, c'est la progression qui compte. Toujours, peu importe ton titre, c'est la progression qui compte. Mais il y en a qui disent, mais pasteur, moi je suis déjà humble. Hein? Donc tu es humble au niveau de Dieu maintenant. Dans ce cas, commence maintenant par transformer les arbres, les pommiers en orange, puisque tu es Dieu maintenant. Bon, comme tu es incapable encore de changer le cycle de la terre et de la lune, donc tu es encore humain, tu es encore à progresser. Mais pasteur, je ne vois pas ce que Dieu veut encore m'enseigner là. Il veut toujours t'enseigner quelque chose, parce que tu ne connais pas tout. Donc dans ce cas, tu connais tout. Oh, tu ne connais pas tout. Donc il a quelque chose à t'enseigner encore. Sois seulement attentif, accepte. Et les bien-aimés ont été choqués par cette parole, il faut manger ma chair. Leur habitude spirituelle a été bousculée, ont été bousculées. Leurs habitudes spirituelles ont été déplacées, mais c'était pour leur bien. Jésus voulait que maintenant qu'ils fonctionnent en esprit. Il a dit, mes paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous avez été habitués à fonctionner dans la chair. Maintenant, il faut que vous fonctionniez en esprit, car c'est là que c'est comme ça que sont les princes. C'est comme ça que sont les champions du ciel. C'est comme ça que sont les héros de la foi. Ils fonctionnent en esprit. Je vais vous faire accéder à cette étape-là. Et quand tu vas accéder à une étape, un jour, il va te vouloir t'amener encore plus loin. Parce que Dieu n'est pas égoïste. Il veut tout partager avec ses élus. Il veut tout partager avec les chrétiens, ses enfants. Il veut tout partager. Sa gloire, il veut partager. Jésus a dit, je leur ai donné ta gloire. Dans Jean 17. Il veut tout partager. Donc, il va chercher à t'amener encore plus loin. Avec Dieu, nous allons, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, 18, 17 à 18, de gloire en gloire. C'est ça l'objectif. Et Jésus avait déstabilisé les pharisiens. Nous lisons encore un épisode, rapidement, le temps passe. Luc 7. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Luc 7, verset 36. Hein. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il saurait qui ?» Et de quelle espèce est la femme qui le touche? Il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, » répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Jésus lui dit, « Tu as bien jugé. » Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc, leur théologie est bousculée. Dans la théologie de ces pharisiens, il ne fallait surtout pas qu'une femme pécheresse, donc prostituée, vienne dans ta maison. Surtout pas! Non seulement elle entre dans cette maison-là, elle mouille les pieds de Jésus de ses larmes. Elle vient essuyer avec ses cheveux. Donc, horrible encore davantage. Et le type, il se dit dans son cœur, mais non, si c'était vraiment un vrai prophète, il n'accepterait pas de telles choses. Jésus dit, oh là là, tu n'as rien compris. Cette femme est en train de pleurer pour ses péchés. Et Dieu est venu pour les malades, les pécheurs, et il n'est pas venu pour les bien portants. Bien-aimé, est-ce que Jésus-Christ a détruit l'Ancien Testament? Non. Il est venu avec la vraie lecture de l'Ancien Testament. C'est tout. On ne te demande pas de suivre un gourou, de secte, mais de suivre le Saint-Esprit quand il t'amène dans la vraie lecture des passages bibliques. On te demande de suivre les... Vous savez, aujourd'hui, il y a une telle habitude, par exemple, à rassurer les serviteurs de Dieu en leur donnant beaucoup d'argent, en les bénissant financièrement, en faisant tout pour qu'ils aient un salaire. C'est très bien. Mais la Bible nous montre que Jésus-Christ avait envoyé les serviteurs en leur disant bien comme il faut de ne rien prendre. Comme argent. Il dit, allez les mains vides. Et quand ils sont revenus, il leur a dit, mais quand vous êtes venus les mains vides, est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Oh non! Bien-aimé, et aujourd'hui, toi, si Dieu te demande de travailler sans salaire pour lui, tu vas faire tous les raisonnements. Et ma retraite? Tu vas faire tous les raisonnements. Et la sécu? Bien-aimé, Jésus connaissait la sécu avant toi, puisque c'est lui qui il connaît l'avenir. Mais il a quand même donné le verset, allez mains vides. Bien-aimé, on ne change pas de Bible, mais c'est la même Bible qu'on lit maintenant en esprit et en vérité. Alors quand tu es bousculé comme ça, il faut accepter cette bousculade. Peut-être que tu étais dans une certaine logique, même avec Dieu, mais Dieu va venir un jour, il va bousculer ta logique. Tu étais dans une... Je vois beaucoup de gens, ils sont dans une logique faire. Quand Dieu vient lui dire... Moi, le plus important pour moi, c'est que tu aies soif. Si tu as soif, c'est moi qui vais faire avec toi. La logique change et les gens ne supportent pas. Ils disent, ah, mais je n'ai rien à faire. Il faut juste que j'aie soif. Et ils sont perturbés. Ils sont déstabilisés. Quand Dieu... La Bible ne change pas, mais Dieu va t'amener un éclairage nouveau. Mais pour cela, toi, tu dois avoir un cœur nouveau. Quel est le cœur nouveau? C'est le cœur qui est prêt toujours à obéir à Dieu. C'est le cœur nouveau. Ce n'est pas un cœur qui connaît beaucoup. Hein? Mais juste, dès qu'il discerne que c'est Dieu qui lui parle, il obéit. Dès qu'il discerne... Donc, tant que tu as ce cœur nouveau-là, tu peux toujours entrer dans une vie renouvelée avec Dieu. Toujours aller de gloire en gloire. Mais si tu as un cœur bien installé, qui est ancien... Jésus l'a dit, on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Pourquoi? Parce qu'elles vont se déchirer. Le vin nouveau, on le met dans les nouvelles outres. C'est clair. Tant que tu as un cœur qui est hostile au changement avec Dieu, moi je ne parle pas du changement qui consiste comme on entend gauche à droite de nouvelles doctrines qui sortent. Non. Donc c'est dans ta marche avec Dieu. Je ne suis pas en train de te parler un homme qui vient t'enseigner une doctrine. Non, je te dis dans ta marche avec Dieu. Tu auras... Il va, même si quelqu'un d'autre a enseigné, Dieu va te perturber, toi. Tu sentiras que à chaque fois que tu veux faire autre chose, ce que tu avais entendu là revient toujours. Tu sentiras que c'est toi qui résistes. Alors cède. Il faut céder. Parce que c'est Dieu qui est en train de t'amener dans quelque chose de nouveau. C'est très, très important. Et parfois, il insiste. Bien-aimé, souvenez-vous de ce mot-là. Insister. Quand Dieu veut t'amener dans une nouveauté, non pas nouveauté comme si c'était pas dans la Bible. Tout est dans la Bible. Quand je dis nouveauté, c'est par rapport à toi. Ce n'est pas par rapport à la Bible. C'est dans la Bible, mais c'est toi qui n'étais pas encore arrivé à ce niveau-là. Quand il veut t'amener dans ça, il insistera. Souvenez-vous. Je ne suis pas en train de vous dire de céder à la première nouveauté que Dieu apporte dans votre vie. Si c'est de Dieu, il insistera. Donc vous saurez que c'est lui. Vous saurez. Certains vont dire, mais pasteur, comment on va savoir que c'est Dieu qui est en train de m'amener dans une nouveauté? Il insistera. Et vous saurez que c'est vraiment lui. Nous continuons. Et nous voyons aujourd'hui les églises qu'on a... Là, je vais citer le nom parce que je suis obligé de m'expliquer. Hein. Donc, les méthodistes, les réformés, l'armée du salut, tous ces groupes chrétiens, aujourd'hui, sont devenus pratiquement des groupes sociaux. Il n'y a pratiquement pas de Jésus dedans. Vous savez pourquoi? À cause de ce qu'on est en train de dire. Quand vous vous stabilisez, vous avez vos locaux, vous avez le salaire pour payer les pasteurs pendant un siècle, vous êtes stable dans tout, la doctrine bien rédigée, en rouge, faut surtout pas quitter cette doctrine-là, tout est stable. Donc quand quelqu'un vient dans votre groupe, ben il n'a qu'à suivre tout ce qui est écrit. Bien-aimé, là, c'est la mort qui va entrer. Dieu n'est pas dans ce genre de logique. Moi, j'ai dit une chose, et je l'ai redit encore dernièrement. Ce que je fais là, quand je meurs, les gens qui vont prendre la relève, Dieu va les inspirer de faire ce qu'ils voudront. Je n'ai pas laissé quelque chose après ma mort dire, voilà le règlement d'ordre intérieur inchangeable que je vous laisse. Bien-aimé, jamais, jamais. Je sais que pendant ma vie, la structure que Dieu me demande de diriger, je vais la guider selon le Saint-Esprit en prêchant la parole et en donnant des conseils par rapport au Saint-Esprit et à la Bible. Donc je vais faire comme mon grand frère Paul qui a dit aux Éphésiens, ben je vous abandonne entre les mains du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Je ne peux pas dire je vous abandonne dans la logique que j'ai laissée dans tel livre. Jamais. Jamais. C'est le Saint-Esprit et la Bible. Donc, un tel meurt, une nouvelle génération commence avec le Saint-Esprit. Lui, il ne change pas. On ne va pas commencer une nouvelle génération avec les choses laissées exactement par l'ancienne génération. Le Saint-Esprit, c'est lui qui conduit l'œuvre de Dieu au fil des siècles. Alléluia. Sinon, on ne serait pas là. Parce que Dieu, à chaque fois, a réveillé des hommes, des hommes de réveil qui ont chaque fois relevé le corps du Christ, relevé l'Église de Dieu. Donc, sachons-le. C'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu qui renouvelle. Et tout ce qu'on fait là de figé, où on oblige les gens à suivre quelque chose de figé, ça finira par faire entrer la mort. Parce que dans les choses de Dieu, là, le stationnement, quand je parle du stationnement, je parle du stationnement personnel. Dans un stationnement donc où on est en des repères, où on est assis. Je ne parle pas des épreuves que Dieu peut donner où on stationne. Non, je dis le stationnement personnel où on est bien, on est à l'aise, où on fait les choses, même ça avance d'ailleurs. Comme dans une église aux États-Unis, je suivais le pasteur à l'époque, il était encore pasteur, donc il disait, voilà nos nouveaux membres. Vous savez, il y avait combien de nouveaux? 400 personnes. Et il rigolait, il disait, mais ça... Déjà, rien que nos nouveaux membres, c'est la taille d'une église. Moi je disais, que Dieu soit béni. Mais un an après, on a appris qu'il est tombé avec un homosexuel. Voilà, bien aimé. Donc, quand on est stable, on a un grand restaurant dans l'église, 400 nouveaux membres à chaque fois, on est là bien assis, on ne fait que bon faire des signatures et prêcher à gauche, une petite prédication à droite. Bien aimé, la mort t'attrapera. Même si tu es pasteur de 15 000 membres, ça t'attrapera. La seule vie consiste à se laisser chaque jour pousser, diriger par Dieu, par sa parole, par le Saint-Esprit, comme un enfant. Comme un enfant. Quel que soit ton titre, comme un enfant. Et les épreuves par lesquelles Dieu te fait passer, tu te soumets. Comme un enfant. C'est ça le cœur nouveau. Dès que tu commences à dire, mais Dieu, je ne comprends pas. Ça nous arrive à tous. Mais ça finit toujours par « je ne comprends pas ». Ça, c'est mauvais. On commence par « je ne comprends pas » pour dire « mais même si je ne comprends pas, je suis déjà dans l'avion. Qu'est-ce que je peux faire encore ? Je descends de l'avion ? Ben non, je suis dans l'avion, je continue. Voilà. Seigneur, je ne comprends pas, mais je sais que tu es Dieu. Moi, je ne suis qu'une fourmi, même moins qu'une fourmi devant toi. Je me soumets. Là, je sais que c'est toi qui me parles, donc je me soumets. Même si je ne comprends pas. Voilà. C'est ça qui est très important. Et Un autre élément, le Seigneur va nous amener encore dans un plus grand dépouillement pour toucher des plus grands trésors. Et c'est ce qui s'est passé, comme on n'a pas le temps, je cite, dans Luc 18:18, le cas du jeune homme riche qui a dit à Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour te suivre dans le royaume de Dieu? Jésus lui dit, applique les commandements de Dieu. Il a dit, mais je le fais sans problème. Jésus lui dit, dans ce cas, il te reste une seule chose, vends tous tes biens et suis-moi. La Bible dit, cet homme-là s'est arrêté et puis il a fait marche arrière. Bien-aimé, il s'est dit la même phrase qu'on se dit là, souvent. Mais j'ai déjà assez fait quand même. J'obéis déjà. Je vais à l'église, je fais ce qu'il faut. Et c'est surtout les jeunes. Je sens surtout cette phrase-là chez les jeunes. Mais oui, mais à notre âge, on a déjà assez fait comme ça. On va nous demander encore autre chose. Bien-aimé, oui, Dieu te veut toi. C'est toi qu'il veut. C'est pas ce que tu as fait pour lui. C'est toi qu'il veut. Il veut que toi tu sois à lui. Quel que soit ton âge, il veut. C'est toi qu'il veut. Si tu réfléchis à ça, c'est moi qu'il veut. Ça va tout changer, quoi. Ça va tout changer. Quand tu réfléchis à cette phrase-là, c'est moi que Dieu veut, ça change tout. Tu ne vas plus raisonner à, mais j'ai sacrifié telle chose. J'ai sacrifié. Et il y en a qui ont tellement sacrifié, maintenant ils en ont marre. Ils en ont marre. On a trop sacrifié à notre âge. On a trop sacrifié. Bien-aimé, non. Si tu comprends que c'est toi que Dieu veut, tu ne trouveras jamais les choses trop. Tu seras toujours davantage à lui. Mais tu seras, mais l'avantage encore grand, c'est ce que les Daniel ont vécu. Ils ont augmenté en puissance, en sagesse, en amour. Bien-aimé, en tout ce qu'on peut désirer sur cette terre, ils ont augmenté. À un moment, Daniel est devenu premier ministre. Donc, ils ont augmenté en tout. Les autres étaient devenus des gouverneurs. Donc, c'est ça la gloire de Dieu. Il y a un temps de dépouillement. Un temps de dépouillement. Maintenant, on se dit, mais oui, mais je me suis déjà dépouillé. Mais Dieu te dépouillera encore. Pour ton bien, pour t'amener à aller plus loin, saisir les trésors invisibles. Bien-aimé, j'ai demandé à Dieu, puisqu'on m'a parlé de couples chrétiens qui ne font que se briser, notamment ceux des pasteurs, des infidélités. Et j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi ça a augmenté comme ça? J'ai reçu la réponse, je ne sais pas si c'était immédiat, mais j'ai reçu la réponse suivante. Parce que les chrétiens, voyant qu'il y avait certaines infidélités, ils ont voulu faire comme le monde. Donner tous les bons conseils pour bien tenir un mari. Donner tous les bons conseils pour bien tenir une femme. Donner tous les bons conseils pour... Donc, ils ont visé la terre. Ils ont voulu une réussite terrestre en donnant des conseils terrestres. Mais ils n'ont pas compris. Psaume 127, verset 1er. Celui qui bâtit une maison sans l'Éternel bâtit en vain. C'est ça la raison. Il devait enseigner les gens à mettre Jésus au centre de tout, au lieu de leur... Ce n'est pas mauvais tous les autres conseils, comment cuisiner tout ce qu'on veut, comment mettre les chaussettes. Mais ce qui est le plus important, c'est de mettre Jésus au centre. Parce que quand ton mari est fâché et qu'il est un vrai chrétien, c'est Jésus qui va lui dire, arrête, ne te fâche plus. C'est pas bon. Tu n'auras pas besoin de faire des discours ou de faire une bonne cuisine pour les convaincre. Mais alors que, à chaque fois, tu es obligé de faire une bonne cuisine pour les convaincre, ça fait 4 heures, 3 heures. Donc, à un moment, tu vas t'énerver. Donc, malgré tout ce que tu fais comme effort, tu vas t'énerver. Et le Seigneur m'a dit, il faut mettre Jésus au centre. C'est ça la solution. Rester toujours dans le plan du ciel. Et ça passe par un dépouillement. Il y aura un temps où ce sera toujours toi. Ah, c'est à moi toujours de mettre Jésus au centre. Oui, mets-le au centre. Et Jésus là que tu es en train de mettre au centre, il est vivant, il est tout puissant, il va agir, c'est clair, il faut le mettre au centre. C'est ça la raison, on a voulu trop donner des choses, des conseils terrestres, parce que tout homme veut profiter de la terre. Il faut accepter de ne plus profiter de la terre. Tu dis, bon moi, la terre c'est fini pour moi. Ça c'est l'apôtre Paul, ma vie ne compte plus, ce qui compte c'est ma mission. Ah j'aime Paul. Ce qui compte, c'est ma mission, c'est la course que j'ai amenée pour l'Éternel ici-bas. Ça, c'est la vie de Paul. C'était la vie de Joseph, la vie de Daniel. Mais Dieu les a bénis déjà sur la terre. Alléluia. Nous changeons la cassette pour clôturer. Et Nous lisons le psaume 68, 29. Non, excusez-moi, le psaume 60 plutôt. Psaume 60, verset 14, je crois. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alors, dans quoi nous allons être secoués? Dans nos projets. Dieu va nous donner des projets encore plus grands qu'avant. Il y en a qui se sont limités à des projets qui les plaisaient, ils se sont arrêtés à un niveau parce qu'ils ont peur d'aller à un niveau supérieur. Mais Dieu va toujours te secouer pour t'amener à un niveau supérieur. Prépare-toi à cela. C'est très important. Il nous secoue toujours pour nous amener à un niveau supérieur. Et je vais clôturer en disant comme Paul dans Philippiens 3, on n'a pas le temps de lire, il dit qu'il considère tout ce qui est passé comme passé. C'est passé, il regarde de l'avant, il court toujours de l'avant. C'est vrai que le Seigneur nous secoue parce qu'il ne veut pas qu'on se repose sur les acquis, qu'on se repose sur ce que nous avons déjà reçu. Il veut qu'on court encore, qui qu'on soit, quels que soient nos acquis, quel que soit notre compte bancaire, quelle que soit la grande église que tu diriges, il veut que tu cours toujours. Que tu cours parce que tu as ta propre vie personnelle à gérer. Ne te regarde pas par rapport à ta fonction de pasteur, par rapport aux membres que tu diriges. Ne te regarde pas par rapport à ta fonction d'ancien. Tu es ancien pour les autres, mais tu n'es pas un ancien de Dieu. Dieu reste ton Dieu et ton Père. Et ce Père-là veut qu'on court encore pour qu'on grandisse. C'est très, très important que nous puissions nous laisser transformer chaque jour. Repentons-nous si on a à se repentir aujourd'hui pour dire à Dieu, Seigneur, je m'étais installé. Maintenant, je vais bouger, bien sûr, par ton esprit. Seul l'esprit de Dieu nous bouge, il nous réveille, il crée les temps, il crée les circonstances. Tout ce que nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Et lui, il nous bougera autant favorable pour nous amener vraiment à le servir en esprit, en vérité. Prions le Seigneur.